Bonsoir. La Commission électorale nationale indépendante CENI en sigle a publié ce week-end à Kinshasa la liste définitive des candidats à l'élection des gouverneurs et vice-gouverneurs des 9 provinces sur les 26 que compte la RDC. Sur les 25 candidats gouverneurs, 17 se sont présentés comme indépendants et 7 au nom de la majorité présidentielle. Cependant, l'opposition n'a présenté aucun candidat à ce scrutin. Quelle analyse faire de cette publication? Nous en parlons avec Martin Mkonkole, le député national honoraire et le secrétaire général de l'Union démocratique africaine originelle, UDA originelle, parti membre de la dynamique de l'opposition et du rassemblement. Bonsoir, honorable Martin Mkonkole.
Bonsoir, monsieur les journalistes.
Maître Gilbert Katsing, qui vient de faire son entrée dans ce studio, il est expert en décentralisation. Bonsoir, maître Gilbert Katsing.
Bonsoir, monsieur Guy Maté.
Et lui, c'est Richard Kinoa, il est ancien conseiller chargé des questions électorales au ministère de l'Intérieur, il est aussi sympathisant de la majorité présidentielle, il va nous rejoindre, il n'est pas encore là. Bienvenue à tous dans cette émission.
Pour participer à l'émission, appelez les 081 051 66 78 ou contactez-nous par SMS 081 051 57 78 ou par mail dec@radiocapi.net.
La Commission électorale nationale indépendante CENI en sigle a publié samedi à Kinshasa la liste définitive des candidats à l'élection de gouverneur et vice-gouverneur des 9 provinces sur les 26 que compte la RDC. Les détails avec Paul Matendo.
Dans un document parvenu à Radio Okapi, la CENI déclare recevables les candidatures des indépendants, partis et regroupements politiques sur la liste définitive des candidats à l'élection des gouverneurs et vice-gouverneurs des provinces du Haut-Katanga, du Haut-Lomami, du Kwilu, du Sud-Kivu, du Sud-Ubangi et de la Tchopo. Dans le Bas-Zouélé, c'est la candidature des indépendants qui est déclarée recevable sur la liste définitive des candidats à l'élection partielle du vice-gouverneur. Sous un autre chapitre, d'autres candidatures des indépendants, partis et regroupements politiques sont déclarés irrécevables sur la liste provisoire des candidats à l'élection des gouverneurs et vice-gouverneurs des provinces du Haut-Katanga, du Haut-Lomami, du Sud-Ubangi et de la Tchopo, ainsi qu'à l'élection partielle des vice-gouverneurs des provinces de l'Équateur et de la Mongala.
Merci Paul Matendo. Martin Mkonkole, je rappelle que vous êtes député national honoraire et secrétaire général de l'Union démocratique africaine originelle, UDA originelle. Parti membre de la dynamique de l'opposition et du rassemblement, comment vous réagissez à cette publication des listes définitives des candidats gouverneurs et vice-gouverneurs des 9 provinces?
Je tiens d'abord à saluer les différents auditeurs de Radio Okapi, d'une façon générale, sur l'étendue nationale, et d'une façon particulière, les auditeurs de la province de l'Omami, particulièrement Kabinda. Et nous tenons à vous remercier pour cette opportunité que vous nous donnez. Nous l'avions bien dit, monsieur Guimaté, qu'il y a une série de tentatives de distraction qui sont mises en place par les pouvoirs en place, parce que pour le moment, vous savez, il nous reste pas moins de 5 mois pour qu'on arrive à organiser les élections, et ces élections qui ont été retenues de commun accord avec les amis de la majorité au niveau de la CENCO. Nous avions décidé tous d'organiser l'élection présidentielle, d'organiser les élections législatives et d'organiser les élections provincial. Et c'est pour que nous puissions, après ces élections, doter les différentes institutions des animateurs reflétant la volonté populaire de notre peuple. À ce jour, la CENI, en complicité avec les pouvoirs en place, acceptait d'organiser les élections telles que ça s'est fait. Nous nous disons que c'est de la distraction parce qu'il n'y a pas urgence.
C'est de la distraction, c'est pourquoi on ne voit aucune liste un parti de l'opposition?
Non, mais je crois que nous, dans l'opposition, nous vous avions dit que d'abord, nous étions contre la mise en place précipitée de ces animateurs de ces nouvelles provinces, surtout que ces soi-disant députés provinciaux aujourd'hui qui se retrouvent dans ces différentes provinces n'ont jamais été élus comme députés provinciaux de ces provinces dans la configuration de la Constitution qui prévoit les 25 provinces plus la ville de Kinshasa. Et ceux qui ont été élus, je prends l'exemple d'une province bien connue, prenons le cas de l'ancienne province Kasaï-Orientale. Et aujourd'hui, qui se retrouve, nous avons la province de Sankuru, nous avons la province de Lomami, nous avons la province du Kassai-Oriental. Ces députés qui avaient été élus dans la configuration de la province du Kassai-Oriental, ils se retrouvent, certains, à Sankuru. Ils ont reçu ces mandats-là comme députés de la province de Sankuru depuis quel type d'organisation d'élection? Ça n'a jamais eu lieu. Ils ont reçu quel mandat comme députés de la province de Lomami? On n'a jamais élu les députés provinciaux de la province de Lomami.
Merci.
Et au moment que nous attendons qu'on organise des élections, et on est en train de nous distraire, et on va nous dire qu'il n'y a pas d'argent, mais si c'est pour gaspiller avec ces élections triquées, on a de l'argent. Ça, c'est de la distraction.
Monsieur Richard Kinoa, ancien conseiller chargé des questions électorales au ministère de l'Intérieur, vous êtes sympathisant de la majorité présidentielle. Comment vous analysez la publication des listes définitives des candidats gouverneurs et vice-gouverneurs des 9 provinces? Vous avez suivi l'honorable Martin Confolé, qui qualifie cela de pure distraction.
Oui, c'est une réaction d'un opposant, je ne sais pas, d'une certaine opposition. Mais je voudrais dire que là, il y a une expression de l'impunité. Il y a une expression de l'impunité, il y a une expression du sérieux avec lequel le gouvernement voudrait gérer les provinces. Je crois que c'est au contraire une attitude à encourager. Parce qu'en fait, laisser les choses telles qu'elles étaient gérées, suivant les analyses pertinentes des assemblées provinciales, de ces provinces-là qui ont vu leur gouverneur, et même les vice-gouverneurs, être déchus par les assemblées provinciales. Moi, je crois que c'est une attitude à louer, c'est une attitude à féliciter. C'est une expression du sérieux de la part du gouvernement de pouvoir mieux gérer les provinces, de pouvoir récompenser finalement les gouverneurs qui gèrent ces provinces avec beaucoup de sérieux, avec beaucoup d'efficacité. Et je crois que là, il n'y a pas du tout de problème. Et je crois que le processus tel qu'il a été défini et par le gouvernement et la CENI, c'est un processus rationnel et raisonnable qu'il faudrait encourager absolument.
Attitude allouée, comme vous le dites, mais sur ces listes, il n'y a que des candidats, soit de la majorité présidentielle, soit des candidats indépendants. Et les candidatures d'autres partis politiques ayant été jugées irrécevables suite au recours introduit par la majorité présidentielle, et certains candidats indépendants invalidés, crient même au scandale car ils affirment qu'ils n'ont jamais appartenu à la majorité présidentielle. Pourtant, ils ont été sanctionnés. Soit disant qu'il faisait partie de la majorité. Comment vous expliquez cette situation?
Oui, ça, ce sont des attitudes échappatoires. Mais sinon, nous sommes régis par une loi. Nous sommes régis par des textes. Quand vous êtes membre d'un regroupement politique et que vous avez adhéré librement à ce regroupement politique, du moment où vous avez adhéré, c'est que vous acceptez les règles du jeu de ces regroupements politiques. Et quand vous allez à l'encontre de ces regroupements politiques, ça ne peut que vous poser des problèmes. Je crois que les gens qui se sont portés candidats comme indépendants savaient bien que, en fin de compte, ils allaient avoir des problèmes avec leur regroupement politique. Moi, je crois que là, ce n'est pas du tout un problème parce que la liste définitive est presque déjà acquise et que la CENI évolue normalement et dignement jusqu'à l'élection pour désigner des nouveaux gouverneurs pour ces provinces-là.
Monsieur Richard Kinoa, une publication qui s'est faite sur fond des contestations. Le gouverneur du Haut-Katanga et celui de la Chuapa estiment qu'il n'y a pas vacances à la tête de leur province. C'est parce qu'ils ont été réhabilités, n'est-ce pas, par la Cour constitutionnelle. Mais en dépit de cela, la CENI a quand même publié la liste définitive des candidats gouverneurs et vice-gouverneurs de ces deux provinces. Est-ce que ce n'est pas une confusion?
C'est peut-être pas une confusion, mais là, ça pose un problème de notre Constitution. Je vois très mal comment un gouverneur qui a été déchu par son assemblée provinciale et qui arrive à Kinshasa, il introduit son recours à la Cour constitutionnelle, qu'on puisse le réhabiliter. Bon, je prends l'exemple de celui de la Chuapa, parce que j'ai suivi le va-et-vient, tout ce qui a été fait pour entrer dans sa province, ça n'a pas réussi. Donc il y a un problème justement de la Constitution. N'est-ce pas? Il faudrait que la Constitution puisse harmoniser clairement les choses. C'est la raison pour laquelle nous appelons de tous nos voeux la révision de cette Constitution pour que le pays puisse fonctionner normalement.
Un problème de la Constitution, mais est-ce qu'on ne va pas accuser la majorité présidentielle d'avoir défié la Cour constitutionnelle lorsque la ligne des candidats dans les provinces où cette Cour à réhabiliter les gouverneurs.
Il y a une incompatibilité.
On ne va pas vous accuser d'avoir défié la Cour constitutionnelle.
On ne peut pas défier la Cour constitutionnelle qui a été mise en place d'une manière régulière par les institutions de la République, par les institutions légitimes de la République, mais effectivement, il se pose un problème entre les politiques et peut-être l'interprétation de la loi. À ce moment-là, c'est les politiques qui prennent les dessus, monsieur le journaliste.
Oui, mais ces gouverneurs qui seront élus, ils auront un mandat de combien d'années, parce que l'honorable Mkonko l'a rappelé, nous tendons vers les élections générales, ils auront un mandat de combien d'années ou de combien de mois?
Je ne sais pas à quelle date que l'honorable Mkonko a fixé ces élections-là, mais je crois qu'il y a un problème. Il faudrait qu'un consensus puisse se dégager pour que nous puissions fixer les choses d'une manière responsable afin d'éviter une cacophonie inutile pour notre pays. Je crois que penser aux élections en décembre 2017, c'est tout à fait une utopie et je suis certain que nos amis, nos frères de l'opposition ont compris. Donc, il va se dégager, hein, parce qu'faut parler. Nous devons continuer à discuter. Les dialogues, il ne peut jamais prendre fin. Et je crois qu'il faudrait arriver à définir clairement les choses pour éviter à notre pays, un pays fragile, une instabilité avec tout ce que nous sommes en train de vivre actuellement, inutile. Et nous devons aller aux élections comme des responsables, comme un peuple sérieux.
Monsieur Richard Quinoa, est-ce que la majorité présidentielle ne met pas la Cour constitutionnelle dans une situation embarrassante? Vous savez qu'il est prévu que la Cour constitutionnelle puisse prendre acte des élections des gouverneurs. Comment elle va, vous allez lui demander de prendre acte des élections des gouverneurs là où elle a eu à réhabiliter des gouverneurs?
Non. Ici, il y a un problème de la politique et de l'interprétation des textes. Je crois que ce sont là deux chapitres diamétralement opposés, différents. Et je pense que il n'y a pas du tout confusion et que la Cour, ce n'est pas la première expérience dans ce que nous sommes en train de vivre. C'est la raison pour laquelle il faudrait arriver à harmoniser la Constitution de telle sorte que nous puissions éviter justement de telles contradictions qui ne permettent pas à notre pays de pouvoir fonctionner normalement. Ils ont été déchus et ils doivent assumer les conséquences.
Merci Martin Mkonko, je reviens à vous. Donc vous estimez que cette élection est sans enjeu majeur, c'est pourquoi vous n'avez pas voulu aligner des candidats?
Non, je vais d'abord, avant de répondre à cette question, vous avez senti la manière dont M. Richard a présenté des incohérences dans son raisonnement.
Qu'est-ce que vous appelez incohérence?
Il vous dit que nous devons respecter les textes. Et les textes, on doit les respecter que quand, si et seulement si l'interprétation mauvaise faite par eux va dans le sens qui les soutient. Et il dit aujourd'hui que les arrêts de la Cour constitutionnelle ne peuvent pas être pris en compte parce qu'il y a une assemblée qui avait déchu ses gouverneurs. Je me sens vraiment malade. Je vais seulement les rappeler qu'ils se rappellent en 2006. Il y a eu des députés nationaux qui ont été invalidés. Mais il y a eu un arrêt de la Cour. À ce moment-là, il y a eu un arrêt qui a réhabilité. On n'a jamais discuté. Mais quand vous sentez la malhonnêteté, la mauvaise foi des amis de la majorité, qui ne veulent même pas respecter des textes, qui ne veulent même pas qu'on aille aux élections, vous avez senti comment il a balbutié, il est en train de se demander quand et comment pour organiser des élections. Il oublie qu'il y a une constitution. Il vous dit, il a même l'audace de vous dire qu'il faut qu'on puisse réviser et changer la constitution. Mais des messieurs comme ça, ce sont des infractions, ce sont des messieurs qui méritent d'être même arrêtés parce que il ne respecte pas les lois de la République.
Il a le droit de s'exprimer, monsieur.
Oui, mais pas en violation des textes, surtout en ce moment.
Il faut, même si on n'est pas d'accord avec cette opinion-là,
oui, mais on ne peut pas émettre un point de vue contraire au texte. Surtout un ancien conseiller du ministre de l'Intérieur qui sait que le soubassement, c'est vraiment le respect, c'est la loi, c'est la constitution. Il estime que pour lui, ça c'est rien. Il faut maintenant qu'on fasse la volonté des individus.
Et comment vous analysez le silence de la Cour constitutionnelle? Parce que depuis que le problème s'est posé, cette Cour n'a rien dit. Monsieur Lomboto comme Monsieur Kazembe, ils ont introduit des recours, n'est-ce pas, pour demander à cette Cour d'invalider n'est-ce pas, cette élection, mais la Cour n'a rien dit jusque-là. Comment vous analysez le silence de cette Cour?
Moi, je crois que les responsables, aujourd'hui, les hauts magistrats qui sont au niveau de la Cour constitutionnelle, ont compris les enjeux des amis de la majorité aujourd'hui, qui les poussent à aller au-delà de leur conscience, au-delà de la volonté des constituants qui y a institué la Cour constitutionnelle avec ses attributions. Ils sont gênés, ils sont mal à l'aise. Vous-même, vous venez de dire ici, vous avez dit à M. Richard que la Cour constitutionnelle doit prendre acte de l'élection des gouverneurs. Et cette Cour constitutionnelle a donné un avis. Mais aujourd'hui, on est en train de saboter ça, mais c'est regrettable. Je crois que j'apprécie les comportements des hauts magistrats de la Cour constitutionnelle qui ont constaté une certaine irrégularité dans les comportements du chef de politique de la majorité, parce que c'est vraiment décevant. Et je suis d'accord que ces vaillants magistrats commencent à comprendre qu'ils ne peuvent pas, pour l'intérêt de la République, bafouer les textes de la République.
Oui, Martin Konkole, vous laissez à la majorité seule la gestion de toute la province. Vous ne savez pas que lorsque vous avez la gestion de toute la province, vous avez beaucoup d'atouts pour gagner la présidentielle. Pourquoi vous, de l'opposition, vous
non,
laissez...
Non, nous ne pouvons pas continuer à favoriser les mâles. Nous vous avions dit qu'il y a eu d'abord une mauvaise procédure dans la mise en œuvre de ces nouvelles provinces. Nous avions contesté, et même ils avaient commencé avec leur histoire des commissaires spéciaux, qui était anticonstitutionnelle. Ils sont arrivés à l'organisation des élections, on leur avait dit, quand bien même les 25 provinces sont constitutionnelles, mais la mise en œuvre devrait tenir compte de certains préalables. Ils n'ont pas tenu compte, ils se sont partagés. Même aujourd'hui, M. Richard est en train de vous dire qu'il y a un problème d'impunité, il y a un problème de mauvaise gestion. Mais le gouvernement central... Quand est-ce qu'on a déjà puni un ministre parce qu'ils sont nombreux qui sont dans des gaffes? Quand est-ce qu'on a déjà relevé cette mauvaise gestion qui se passe dans d'autres provinces qu'on a laissées? Je vais parler plus précisément de la province de Lomami. Mais il y a une très mauvaise gestion de la province. Je viens de là après l'enrôlement. Mais c'est malheur. Il faut voir comment le peuple est en train de vivre dans des conditions très minables. Mais oui. Je ne sais pas, parle de quelle bonne gestion. Ils ont échoué à tous les niveaux. Ils ne peuvent pas dire qu'ils organisent dans ces 9 provinces parce que c'est là où il y a eu mauvaise gestion.
Et à votre avis, comment ces gouverneurs qui avaient été déchus par les assemblées provinciales, comment ils allaient cohabiter avec ces assemblées provinciales, ces gouverneurs qui avaient été réhabilités par la Cour constitutionnelle, alors qu'ils avaient été déchus par les assemblées provinciales? La cohabitation allait se faire comment? Ça allait être difficile, n'est-ce pas?
Non, il fallait d'abord comprendre qu'il y a un problème au niveau de la procédure. Parce que l'ère d'échéance, ça a été des manœuvres voulues par eux-mêmes les amis de la majorité, parce que leurs intérêts, ils se sont retrouvés en contradiction de leurs intérêts. Et c'est comme ça qu'ils ont cherché à régler des comptes à certains.
Merci. Merci, Maître Gilbert Ketsing, expert en décentralisation. Comment vous analysez la publication, n'est-ce pas, des listes définitives des candidats gouverneurs et vice-gouverneurs des 9 provinces de la RDC? En fait, sur les 26 provinces que compte la RDC.
Merci beaucoup pour cette opportunité que vous m'offrez. Permettez-moi d'abord de saluer les auditeurs de la Radio Okapi. Je voudrais aussi saluer la population de la ville de Boutembo, je sais bien pourquoi. Eh bien, lorsque vous me posez la question de savoir quelle analyse je fais d'un acte matériel de publication d'un calendrier, je me dis que c'est une question de forme. La publication d'un calendrier électoral, c'est une simple opération matérielle. Mais au-delà de cette opération matérielle, il y a évidemment des questions de fond qui se posent. Je viens de suivre les interventions des uns et des autres. J'ai personnellement suivi l'évolution de cette question avec toutes les péripéties judiciaires qu'il y a eu avant cette publication. Je me dis qu'en ce qui me concerne en tant qu'expert, eh bien, cette publication vient régler seulement 2 questions. Et laisse en suspens une question fondamentale. Elle règle 2 questions de forme, à savoir la question qui est même de fond, la question de légitimité des institutions provinciales et la question de l'égalité. Vous savez que le principe en matière de droit, c'est la continuité de service public. Eh bien, lorsqu'il y a un vide à la tête de la province, il faut bien pourvoir la vacance. Et la Constitution, ainsi que la loi sur la libre administration des provinces, dit que lorsque le gouverneur est déchu par une motion de censure ou par une autre procédure, eh bien, il faut que la CENI organise les élections. On a même fixé un délai, je crois que c'est 60 jours. Donc, sur le plan de la légalité, nous n'avons rien à reprocher à la CENI. sur le plan de la légitimité, il faut bien que les gouverneurs intérimaires qui sont là, qui n'ont pas de légitimité, soient remplacés par des gouverneurs élus par les députés provinciaux. C'est cela, donc, la légitimité. Mais sur le plan du fond, il y a quand même deux petits problèmes sérieux. Le premier problème, c'est la question de l'opportunité. Est-ce que cette élection-là des gouverneurs de province va cette fois-ci booster, parce que l'objectif, les élections ne sont pas une fin en soi. Il faut que les élections tendent à résoudre les différents problèmes de gouvernance au niveau de la province, notamment promouvoir le développement des entités qui sont dans la province. Est-ce que cette élection va favoriser l'atteinte de cet objectif, c'est-à-dire la promotion du développement à la base? Je me dis qu'à ce stade, il n'est pas aisé de répondre parce que les provinces qui sont concernées sont toutes des nouvelles. Elles n'ont pas encore atteint 2 ans révolus. Vous savez qu'il n'y a pas longtemps, c'est en 2015 qu'on a finalement matérialisé, n'est-ce pas, le découpage territorial, comme on l'appelait. Donc ces nouvelles provinces ont connu la mise en place de leurs institutions il n'y a pas 2 ans. Et c'est donc déjà un signal négatif que, à plus ou moins 2 ans, on soit obligé de remplacer 9 chefs d'exécutif sur le 26. C'est un signal assez mauvais. Cela signifie que le problème au niveau du regroupement, enfin, le regroupement politique, on l'appelait ainsi, mais moi je crois que la MPC, c'est une plateforme où ne sont membres que les partis politiques et les personnalités. Donc, vous pouvez être membre d'un parti politique, membre de la MP, mais vous gardez votre indépendance. Encore que même la charte de la majorité présidentielle dit que ce n'est pas... Je me suis rappelé le discours qui avait été tenu en 2011, au mois d'avril, lorsqu'on a signé la charte de la majorité présidentielle. On a dit que ce n'est pas un grand parti politique, mais c'est un regroupement, c'est-à-dire chaque parti garde son autonomie. Et donc, lorsqu'une personne quitte un des partis, membre de la majorité, pour aller être candidat indépendant, moi je ne vois pas d'entorse là-dessus. Parce que les membres des partis ne sont pas membres de la majorité. Ce sont les partis politiques qui sont membres. Au-delà de ces membres, il y a des personnalités qui viennent adhérer, signer en tant que telles.
Maître Gilbert, je reviens sur ce que vous avez dit au départ. Hein. Vous dites que cette publication vient régler deux questions de forme, celle de la légitimité des institutions locales et celle de la légalité. Et par rapport à la légalité, vous dites que on n'a rien à reprocher à la CENI. Mais lorsque la CENI publie des candidatures dans des provinces, n'est-ce pas, où les gouverneurs ont été réhabilités, vous ne pensez pas qu'il y a un problème de légalité?
C'est là que je voulais venir. J'ai dit qu'il y a quand même deux petits problèmes. J'étais en train d'aborder le premier par rapport au choix ou à la question d'invalidation de certains candidats. Le deuxième problème que je voulais aborder justement, c'est par rapport aux provinces, aux nouvelles provinces comme le Haut-Katanga, où il y a un arrêt de la Cour constitutionnelle qui a réhabilité pratiquement l'autorité locale.
Donc, le Haut-Katanga et la Choapa.
Et la Choapa. Et donc je me dis que on expose déjà cette élection à l'annulation parce que la Cour ne se saisit pas évidemment. Il faudra attendre que les élections se passent pour que la personne lésée puisse saisir la Cour constitutionnelle. Et lorsqu'elle va saisir, elle va brandir l'arrêt de la Cour constitutionnelle. La Cour constitutionnelle ne peut pas se contredire en principe.
Mais l'autre question, c'est de savoir comment ces gouverneurs qui avaient été réhabilités par la Cour constitutionnelle allaient cohabiter avec ces assemblées provinciales qui leur avaient retiré la confiance.
Il ne faut pas mélanger les questions juridiques avec les questions politiques. Ça, c'est un aspect politique. C'est lui-même qui sait comment il allait s'y prendre. Nous avons été ici dans une des émissions lorsqu'on a évalué ce gouverneur de Haut-Katanga. C'est une question de retrouver la confiance des députés provinciaux. Et vous qui savez comment ça se passe dans les assemblées provinciales, dont la plupart des députés sont pratiquement obéissent, je veux dire, aux ordres de la plateforme, de leur plateforme ou de leur parti politique. Et il arrive parfois des cas d'indiscipline, entre guillemets, où les députés changent facilement de camp. Donc ça, c'est une question politique. Merci. Mais sur le plan strictement juridique, il lui fallut que le gouverneur de la province de Choapa et le gouverneur du Haut-Katanga reprennent d'abord ses fonctions, quitte à ce que les députés provinciaux initient notre motion et qu'on le fasse tomber en, proprement, parce que il a été réhabilité à cause d'un vice de procédure.
Merci.
Mais le fond du problème est resté entier.
Ok, merci monsieur Richard Kinowa. Il y a une question qui vous est adressée, elle vient de Bounia.
Luc Malembe depuis Bounia, province de l'Ituri. La tenue de cette élection de gouverneur dans 9 provinces prouve à quel point c'est la majorité au pouvoir qui bloque l'élection présidentielle et autres scrutins dans notre pays depuis plus d'une année. Tant qu'une élection les arrange et qu'ils sont certains de la remporter, là, ils donnent les moyens à la CENI et vite ces choses faites. Mais lorsqu'ils savent que telle élection ne les arrange pas ou qu'ils ne peuvent pas la remporter, ils bloquent les moyens.
Oui, monsieur Richard Kinoa, il a rejoint les arguments, n'est-ce pas, de l'honorable Matem Konkolé.
Oui, là, il a mélangé justement l'élection des gouverneurs et l'élection du président de la République. C'est pas la même chose. Ici, nous sommes dans un contexte précis. Moi, j'aurais bien souhaité que nous puissions sortir de ce contexte pour justement éclairer la lanterne. Mais je pense que je voudrais peut-être ici réagir directement au propos de l'honorable Moutonkolé parle beaucoup plus de la Olomami. Bon, ça c'est d'une manière intéressée. Bon, moi je crois que les débats ne devraient pas être abordés de cette manière-là. Ici, nous ne sommes pas dans une propagande politique. Moi-même, j'ai aussi un fief électoral, mais ça ce n'est pas le cas présentement. Je voudrais dire que monsieur Moutonkolé est tout à fait en dehors du débat, parce que nous ne devons pas aborder les choses d'une manière utopique. Nous devons être responsables, nous sommes des intellectuels, nous sommes des patriotes, nous sommes des Congolais. Nous devons voir les choses telles qu'elles se présentent aujourd'hui. Nous sommes au mois d'août, n'est-ce pas? Dans 4 mois, sommes-nous capables d'organiser les élections en 2012? Moi, j'ai dit non. En tout cas, là, je voudrais, d'ailleurs, ici, j'ai eu à participer à plusieurs émissions avec des spécialistes qui avaient préparé je ne sais quoi. Mais la réalité nous a rattrapés. La réalité nous a rattrapés. Et même dans l'accord de la CENCO, n'est-ce pas, on projette toujours une date consensuelle pour arriver à organiser les élections d'une manière responsable. Alors, moi, je crois que nous ne devons pas ici sortir du débat. Nous sommes en politique, effectivement. Un politicien ne peut pas se comporter de n'importe quelle manière.
Et comment vous réagissez à l'auditeur quand il dit que la majorité présidentielle, lorsque elle estime que c'est des élections qui l'arrangent, tout de suite l'argent est là et on vote dans les élections, mais lorsque elle estime qu'elle n'a pas assez d'intérêt, bon, elle dit qu'il n'y a pas d'argent.
Oui, je voudrais que mon frère comprenne que ce n'est pas la majorité présidentielle qui organise les élections, c'est la CENI qui organise les élections. Donc la majorité présidentielle se comporte comme une plateforme.
C'est la majorité présidentielle qui gouverne.
Oui, oui, elle gouverne.
Et qui donne les moyens à la CENI. Affaire.
Non, ce n'est pas la majorité.
Et donc elle peut bloquer la CENI si elle refuse de donner l'argent.
Je pense aussi quelque part qu'il faudrait faire la distinction entre la majorité présidentielle et le gouvernement. Ce n'est pas la majorité présidentielle qui participe au financement de la CENI. C'est le gouvernement de la République démocratique du Congo. C'est-à-dire, ce sont les gestionnaires élus. Les gestionnaires légitimement élus par le peuple congolais qui posent des actes dans le cadre de leurs fonctions normalement. Donc il n'y a aucun problème là-dessus.
Merci, honorable Mkonkolé. Il y a une question pour vous, elle vient de Kananga.
Zachary Mwimpe, à partir de Kananga. L'opposition est désorganisée depuis la mort du leader Étienne Tshisekedi. Rien ne marche dans l'opposition. La majorité dissout de temps en temps l'opposition pour gagner son gain. Elle gagne. L'opposition a des objectifs éphémères. Que l'opposition sache bien qu'on ne combat pas en dehors du champ de bataille. il faut s'impliquer pour mieux connaître son adversaire. La majorité fait son travail pour gagner du pain et elle gagne. Les discours ne changeront rien. Pour conclure, nous savons très bien que l'opposition n'a pas besoin du pouvoir, si ce n'est que détruire ce que les autres font. Pour ce faire, l'opposition reste l'opposition éternelle. La CENI n'a pas tort pour ce cas.
Honorable Konkole, la politique de la chaise vide.
Je crois que Zachary, je comprends qu'il est de la majorité, il lit très mal les choses et il n'est pas dans l'esprit.
Donne son point de vue en tant que citoyen.
Oui, mais en tant que citoyen, mais qui a un camp. On sent qu'il est dans quel camp, parce que quand il dit que nous, il estime que la politique de la chaise vide ne paye pas, il souhaite que tout le monde soit là, mais je lui pose la question. Ça fait combien d'années nous sommes dans la politique de la chaise pleine avec les amis de la majorité? Quel est le résultat? Il faut qu'on voie les résultats qu'on a donnés avec la politique de la chaise pleine qu'ils ont pu faire. C'est la misère totale. Lui qui a Kananga, il sait vraiment dans quel état il vit aujourd'hui. Est-ce que cette politique de la chaise pleine là a résolu quel problème au niveau de Kananga là où il est? Donc je crois que ça, ce sont des choses, nous parlons en responsable ici. En responsable, je crois que M. Richard, il a estimé que 4 mois qui nous restent, c'est impossible d'organiser les élections. Mais je vais rappeler que je ne suis pas en dehors de la question. Et il a parlé de 4 mois par rapport à l'accord de la CENCO. Mais est-ce qu'on a pu réellement manifester la volonté de pouvoir exécuter cet accord qui prévoyait dans les 12 mois, ensemble avec la CENI, et qu'on pouvait réellement organiser les élections dans ces délais-là? Pour commencer, qu'est-ce qu'il faut? Il faut attendre qu'on a d'abord absorbé les 7 mois, il reste 4 et on dit que c'est pas possible. Mais je crois que c'est possible s'il y a la volonté politique d'organiser les élections. C'est oui. Possible. Et je vais revenir sur ce que l'ami Zachary a dit. L'opposition, après la mort du père de la démocratie, Étienne Tshisekedi, nous sommes organisés, les rassemblements est là, il est en train de présenter la cohérence dans la lutte que nous menons pour faire changer les choses et pour qu'il y ait une alternance après 2017. Et la lutte, elle est là, c'est peut-être parce qu'il est très loin de la capitale, mais si, même à Kananga, là où il est, je crois, il est en train de sentir les effets de l'opposition. Nous sommes organisés. C'est tout à fait normal que des gens puissent changer de camp. Aujourd'hui, ceux qui étaient avec nous, qui quittent, c'est leur droit légitime. On ne peut pas en faire un problème. Et nous avions levé une option pour dire nous restons du côté du peuple et nous devons lutter pour réellement arriver à résoudre les différentes difficultés que le peuple rencontre à travers les élections. C'est pourquoi nous acharnons, nous disons que nous devons organiser les élections et en organisant des élections, ça nous donnera une solution. Et pour revenir à la question fondamentale des 9 provinces dans lesquelles on doit organiser des élections, mais nous disons que c'est une perte de temps parce que les fonds, c'est pour combien de mois? Ces gens-là seront là. Vous avez posé la question. Ils auront quel mandat? Et si on doit rester dans le fond de la question, le gouverneur qui doit être élu, il a un mandat, mais c'est là, on les élit pour combien de temps? Pour achever les mandats de qui? Parce que tous ne sont déjà hors mandat. Il n'y a aucun gouverneur qui est encore légitime, qui peut se dire aujourd'hui qu'il est encore en train d'exercer son mandat. Merci. Et celui qu'on va voter va achever les mandats.
Merci, Maître Gilbert Kassingé. Il y a une réflexion à laquelle vous allez réagir. Elle vient de Lubumbashi.
C'est Patrick Mbouli, Kassama depuis Lubumbashi, dans la province de Haut-Katanga. Vu les contextes politiques actuels du pays et les temps qui nous restent jusqu'à décembre de cette année, l'élection des gouverneurs et leur vice est inopportune. Et l'opposition a raison de ne pas y aller, car ça ne va pas résoudre la crise de leadership qui connaît nos différentes provinces. Et la CENI, qui est une institution à l'appui à la démocratie, sait très bien que seules les élections présidentielles et législatives pourront mettre fin à la crise politique actuelle. Je pense qu'organiser l'élection des gouverneurs aujourd'hui est tout simplement du gaspillage, et c'est pour saper le moral du peuple congolais.
Oui, Maître Gilbert Kassingé.
Je voudrais saluer d'abord l'auditeur, Patrick, et le remercier pour sa question. Mais je crois que nous devons savoir ce que nous voulons. Parce qu'en fait, c'est la loi qui dit que lorsque le gouverneur est tombé à la suite d'une motion de censure ou de défiance selon, il faut organiser les élections. Moi, je crois que là il ne faut pas mélanger les questions d'opportunité. Ça, ce sont des questions qui relèvent l'appréciation souveraine de ceux qui organisent les élections, mais je crois que la loi les oblige à organiser les élections pour qu'il n'y ait pas de vide institutionnel, parce qu'au niveau des provinces, ce sont des institutions, c'est comme au niveau central.
Et pour certaines provinces, il n'y avait pas de vide.
Il y avait des vides dans toutes les provinces concernées, parce que, à part là où la Cour constitutionnelle a rétabli l'ordre de cette manière, mais il y avait des vides. Il fallait absolument combler ces vides, et on ne les comble pas en désignant un ministre provincial comme gouverneur, ou en faisant. Donc, il faut absolument remplir cette obligation constitutionnelle d'ailleurs. C'est la Constitution qui dit que le gouverneur doit être élu. Il n'est pas nommé.
Et comment vous réagissez au propos de M. Richard Kinoa qui dit que la politique prime sur la justice?
Bon, je crois que c'est un terrain très glissant. Lorsque le peuple tout entier, par référendum, vote pour une constitution, c'est-à-dire lorsqu'il y a des normes sociales et sociétales qui sont tracées par une loi suprême qu'est la constitution, il ne faudrait pas que chaque fois qu'une disposition ne plaît pas à tel ou tel camp, eh bien qu'on dise, voilà, il faut suspendre cette disposition constitutionnelle, cette constitution ne nous arrange pas. Je crois que ça, ce serait mettre tout le monde en danger, parce que on soumettrait le fonctionnement de l'État aux caprices ou aux intérêts des particuliers, alors qu'on doit poursuivre l'intérêt général. J'ai même entendu ici, du côté de l'opposition également, dire que l'élection des gouverneurs pour les nouvelles provinces avait été faite dans la précipitation, contre la volonté de l'opposition. Mais je rappelle qu'il y avait une loi sur la programmation de la mise en œuvre des provinces. Il y avait une loi qui a été votée au Parlement. La première avait fixé un certain nombre de délais butoirs. Ça n'a pas marché parce que la Constitution avait prévu qu'on allait installer les nouvelles provinces, je crois, 36 mois après l'installation du Sénat. Eh bien, on a dépassé ce temps-là. Et c'est au niveau de l'Assemblée qu'on a commencé à crier, au niveau de l'opinion également, pour dire, mais comment vous ne respectez pas la Constitution? On a dû modifier la Constitution d'abord, et puis prévoir une loi de programmation, votée à l'Assemblée nationale. C'est sur base de ça qu'on a prévu, n'est-ce pas, l'élection des gouverneurs par les députés provinciaux originaires, parce que ce sont les districts, enfin les sous-régions anciennes, les districts qui sont devenus des provinces. Donc les députés qui avaient été élus là-bas, c'est eux qui ont constitué l'électorat à ce niveau-là.
Voilà,
donc, c'est
la loi. Vous avez dit que cette démarche de la CENI pose une question de fond, c'est celle de l'opportunité. Et vous êtes posé la question de savoir si l'élection des nouveaux gouverneurs dans ces neuf provinces va booster, n'est-ce pas, le développement de ces provinces. Et donc vous pensez que c'est une élection qui n'a pas d'enjeu majeur?
Cette question ne se pose pas à la CENI. Elle se pose aux responsables des plateformes politiques qui proposent les candidats gouverneurs. Parce que normalement, avant de proposer des personnalités comme candidates au poste de gouverneur dans telle ou telle province, je crois qu'on devait quand même s'asseoir au niveau de la majorité pour évaluer, n'est-ce pas, les actes posés. Avant, on a proposé un certain nombre de gens, parce que la plupart sont de la majorité, et c'est tout à fait évident, parce que celui qui sera gouverneur, il est le représentant direct du chef de l'État en province. Vous n'allez pas être représenté par votre opposant. C'est tout à fait normal que la plupart des gouverneurs ou des candidats gouverneurs proviennent de la majorité. Il ne faut pas obliger le chef de l'État à composer dans les provinces avec des gens qui lui sont opposés, qui n'ont pas la même vision que lui. Et donc, la question se pose au niveau de la plateforme qui doit proposer les candidats gouverneurs. Merci. Est-ce qu'on a fait l'état des lieux? On a fait une certaine évaluation? Est-ce qu'on a pris du recul pour voir qu'est-ce qui n'a pas marché dans le choix des prédécesseurs? Parce que je vous annonce que d'autres vagues viennent. Il y aura d'autres élections. Merci. Il y aura d'autres motions de censure dans d'autres provinces qui ne sont pas encore touchées.
Merci, maître.
Et ainsi de suite. Donc, ça sera une sorte d'éternelle répétition.
Merci, maître. Il faut donc... Merci Richard Kinoa. Comment vous entrevoyez la suite du processus électoral après la publication de ces listes définitives?
Oui, le processus il va se poursuivre tout à fait normalement. Mais ce qu'il faudrait comprendre ici, je pense que c'est très important. Nous sommes dans un processus de démocratisation, n'est-ce pas? Ce n'est pas parce qu'il y a eu, on a voté cette constitution et puis on doit croiser les bras, on ne peut pas corriger des erreurs. Non, quand il y a des incohérences, il est tout à fait normal que le peuple puisse s'arrêter un instant et pouvoir et décide de réfléchir sur ce qui ne marche pas pour une harmonisation responsable de nos institutions, pour un bon fonctionnement de notre pays. Ça, c'est tout à fait normal.
Pas, c'est par l'évaluation, n'est-ce pas, de ceux qui sont passés par là, les gouverneurs qui étaient là, qui ont été sanctionnés. Il faut évaluer, n'est-ce pas, la gestion de ces gouverneurs pour essayer de voir comment rectifier les tirs comme l'a proposé Maître Gilbert Kassingé.
Moi, je ne voudrais pas me prononcer, disons, me mettre à la place de ces députés provinciaux. Ils ont pris une décision que je trouve légitime et normale, n'est-ce pas? Et que aujourd'hui, devant ces vides, il n'y a pas une autre solution que celle de pouvoir organiser de nouvelles élections pour ces provinces-là, c'est tout à fait normal. Je crois que là, il n'y a pas débat.
Voilà, c'est tout à fait normal. Et vous pensez que ça va booster le développement de ces provinces? Ça a été encore élevé une fois de plus par Maître Kassingé.
Oui, il y a par exemple, dans les nouvelles provinces actuelles, il y a des provinces qui ont véritablement décollé, hein, qui ont sérieusement décollé. Et cela, c'est remarque. Effectivement, les problèmes de développement, c'est un problème des institutions provinciales, aussi un problème des individus, n'est-ce pas? Quand vous avez à la tête d'une province, quelqu'un qui n'a pas suffisamment d'initiative, qui ne fait pas suffisamment d'action. Il y a des actions qui sont simples, hein. Il faut pas vous imaginer toujours des choses en très grand. Non, il y a des choses simples, n'est-ce pas? L'organisation de je ne sais quoi, pour que les provinces puissent petit à petit aller de l'avant. Mais il y a des provinces qui ont sérieusement décollé, et ça c'est clair.
Merci, honorable Martin Mkonkolé. Comment vous entrevoyez la suite du processus électoral en RDC? Ça sera sous votre conclusion parce que nous sommes à la fin de l'émission.
Non, nous pensons qu'il est d'un devoir civique et politique des acteurs politiques de la CENI aussi en tant qu'organe technique de pouvoir comprendre que le peuple congolais a besoin qu'on organise les élections, enfin que les différents animateurs des institutions puissent bénéficier des mandats légaux venant de notre peuple. Et tout ce qui
se passe. Est-ce que l'opposition se prépare à ces élections?
Je crois que vous avez suivi, c'est parce que c'est difficile de continuer à médiatiser la manière dont l'opposition est en train de prendre acte ou de s'associer dans ces processus d'enrôlement. C'est une façon de préparer pour nous les élections, parce que nous savons que cette alternative ne peut venir, l'alternance ne viendra que par les élections, nous nous préparons pour ça. Et je crois que ce qui est plus fondamental pour le moment, c'est de pouvoir rester réellement à l'écoute de notre peuple. Considérer que ce qui va se passer maintenant, c'est de la distraction et c'est du gaspillage des moyens, qu'on garde cet argent et dans les 4 mois qui suivent, qu'on organise les élections qui pourront permettre vraiment au peuple congolais de se choisir de nouveaux animateurs, et ça sera une solution et ça sera le sauvetage pour notre pays.
Merci Maître Gilbert Kassingé, votre conclusion.
Eh bien, en guise de conclusion, je voudrais revenir sur l'idée fondamentale, parce qu'on a toujours dit que les mêmes causes produisent les mêmes effets. Eh bien, si aujourd'hui on replace à la tête des provinces des personnalités qui n'ont pas été suffisamment bien sélectionnées, eh bien nous n'allons pas atteindre l'objectif qui est le développement. J'ai comme l'impression qu'on cède la majorité présidentielle, il y a un problème de gestion des ambitions, il n'y a pas un débat suffisant entre partis politiques membres.
Est-ce que ce même problème ne se pose pas aussi à l'opposition, un problème de gestion
pour
des ambitions?
Pour le moment, c'est la majorité qui est concernée, parce que c'est elle qui propose les candidats gouverneurs, et donc il faut vraiment promouvoir le débat. J'ai même relu la charte de la majorité présidentielle. On dit clairement qu'on doit consulter les partis membres pour les questions fondamentales comme celle-ci, notamment pour la sélection des candidats. Mais j'ai comme l'impression qu'il y a d'autres critères qui président à la désignation. Et je vous annonce qu'il y aura certainement beaucoup de problèmes. On ira d'élection en élection parce que ça ne va pas marcher.
Richard Kino, votre conclusion.
Ce que je voudrais personnellement demander, c'est l'encadrement, hein, les recyclages des gestionnaires des provinces. Parce qu'en fait, il y a aussi un problème de l'inexpérience qui se pose. Et pour le gouverneur et pour les députés provinciaux. Donc il faudrait un encadrement. Ils doivent être accompagnés, n'est-ce pas, pour qu'ils arrivent à poser des actes d'une manière véritablement responsable.
Merci, c'est la fin de cette émission. Merci à Jean-Noël Mokondo qui était à la technique. Merci à Alain Irong et Béry Franklin Luchaka sous la supervision des Pélé Kipela Mondo. À la présentation, Guy Maté. Merci et bonne suite du programme sur Radio Capi.